France Inter.
Aujourd'hui 2050, à quoi ressembleront nos vies ? Raconté par
Nathanaël Wallenhorst, chercheur en sciences de l'environnement.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Nous sommes en 2050, la chaleur sature l'air dès l'aube à Paris. Il fait déjà 30 degrés un matin de juin, ce n'est plus une exception mais une routine. Les habitants n'ont pas oublié les alertes répétées du GIEC dès 2021, 2022, 2023. Les scientifiques martelaient que dépasser 1,5 degré de réchauffement risquait de rendre le monde instable. Mais on parlait alors d'hypothèses, de projections. Aujourd'hui, ces courbes sont devenues des vies. La planète a franchi 2,6 degrés, les canicules annoncées comme plus probables par les modèles climatiques sont désormais annuelles. Les journées où l'air devient létal se comptent par dizaines, comme le GIEC l'avait calculé pour l'Asie du Sud ou le Moyen-Orient. 2 milliards d'êtres humains peinent à accéder à l'eau potable, une donnée inscrite dans les rapports mais ignorée trop longtemps. Dans les Alpes, les glaciers ont disparu, comme prévu. Dans les Caraïbes, les cyclones balayent chaque saison entière d'îles, comme le suggéraient déjà les simulations en 2020. Et la montée des océans annoncée centimètre par centimètre a fini par grignoter Cannes, Alexandrie, Miami, Dhaka comme un film implacable tiré depuis 30 ans. Les forêts amazoniennes pointées comme proches d'un point de bascule dès 2019 se sont effondrées sous la sécheresse et les flammes. La grande barrière de corail qu'on disait condamnée d'ici 2050 si rien ne changeait est bel et bien un souvenir. En 2023, beaucoup se rassuraient encore, il nous reste du temps, mais chaque rapport du GIEC rappelait que la fenêtre d'action se refermait. L'inaction collective à transformer ce qui n'était qu'une prévision en récit quotidien. Car 2050 n'a rien d'une apocalypse hollywoodienne. C'est un monde banal, trop chaud, trop instable, où la science avait écrit les chapitres à l'avance et où l'humanité a choisi de tourner les pages sans les lire. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Nathanaël Wallenhorst.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes l'auteur d'un livre, 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, qui paraît aux éditions du Seuil. 2049, c'est dans seulement 24 ans. Et c'est pas seulement une date, hein, c'est une image, celle d'un futur qui est en train de se construire à partir donc des sciences du système Terre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette approche pour alerter sur ce qui nous attend ?
Alors, de fait, il y a une question, comme une méthode, en fait, pour essayer de voir ce qui est en train d'advenir. Et moi, fondamentalement, ce que je souhaitais faire, c'était donner à voir ce que j'ai dans ma tête, ce que je vois quand je suis en train de travailler ou quand je suis au milieu de la littérature scientifique, etc. Et cette méthode, elle repose sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est les sciences du système Terre, dont on va dire un petit mot, qui sont organisées autour d'une logique toute particulière, qui est cette logique de point de bascule, de tipping point. Le deuxième pilier de cette méthode, c'est une base de données, une base d'articles scientifiques, de plusieurs milliers d'articles collectés année après année.
Ah, il y a une grosse littérature sur
voilà,
le sujet. Oui.
Ouais. Le troisième pilier, c'est partir de la vie des gens. Pas d'abord partir de ce qui se passe loin de moi, en Antarctique, en Arctique, etc. Mais partir de ma vie, de mes tripes, de celle des gens aujourd'hui. Et puis le quatrième pilier, c'était simplifier, sans jamais tordre les savoirs scientifiques, mais qui sont constitués de tellement de complexité, il s'agissait de rendre quelque chose de compréhensible, de perceptible, de sensible aussi.
Pourquoi 2049 et pas 2050 ? C'est juste un effet de style ?
Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est, il s'agissait de dire quelque chose est devant nous, est en train de se passer, regardons-le. Évidemment, on aurait pu l'appeler 2050. 2050, ça s'inscrit dans des prospectives climatiques habituelles qu'on connaît, 2050, 2100, etc. Et là, moi, j'ai souhaité aussi m'émanciper d'une certaine façon de 2050 comme date uniquement pour donner à voir, parce qu'il y a certains éléments, on ne sait pas exactement quand ça risque d'advenir. Est-ce que c'est 2050, 2060, 2070 ? Fondamentalement, peu importe, en fait, ça va venir bousculer nos vies. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé 2049. Et puis aussi, l'idée, c'était de dire, c'est là, on peut le toucher. À hauteur d'existence humaine.
Avant de passer justement, avant d'aller dans le futur, on va faire un petit point d'histoire pour remonter aux origines intellectuelles, des penseurs justement, qui ont progressivement posé des bases de ce qu'on appelle justement le système Terre. Qui sont-ils alors ?
Alors on peut remonter, on va dire, au 18e, avec les premières en tout cas une théorie de la Terre de James Hunton, un géologue écossais. Et puis après, on a quelqu'un vraiment qui a été important, un géochimiste russo-ukrainien, Vladimir Vernadsky, qui lui a travaillé sur la biosphère comme un ensemble. Et puis après, au niveau de la seconde moitié du XXe siècle, en l'année 1957-1958, c'est une année forte, une année importante, qu'on a l'année de géophysique internationale, où différents États se sont mis ensemble pour essayer de franchir un cran dans la compréhension de la Terre.
Et ça, c'était un tournant majeur aussi pour la science, parce qu'il n'y a pas que les États, il y a aussi les chercheurs qui vraiment ont fédéré leurs travaux.
Ont fait émerger ce nouveau champ scientifique qui est une fédération disciplinaire autour d'un objet, la Terre. La Terre qui nous accueille, la Terre de laquelle on reçoit la vie, essayer de la comprendre dans toute sa complexité. Et puis, juste après, en fait, il y a l'avènement de l'informatique, et l'avènement de l'informatique avec tous les possibles, et notamment en termes de modélisation, de compréhension, d'interconnexion de la biosphère, de la lithosphère, les sols, la cryosphère, les glaces, la biosphère, la vie, etc.
Donc c'est ça le système Terre finalement, ce sont toutes ces interactions.
Alors le système Terre, on pourrait dire pour faire un truc très simple, c'est l'interaction entre le climat, la biosphère, les sociétés. Aujourd'hui, le climat s'emballe, les écosystèmes de la biosphère s'effondrent, et comme on est des vrais teubés, nos sociétés accélèrent. Et donc, en fait, avec ces trois processus, emballement, effondrement, accélération, il y a un tourbillon, il y a un vortex dans lequel on est pris. Et là, en fait, ce qu'il faut essayer de faire, et une émission comme la vôtre, c'est ce qu'elle permet, c'est on appuie sur pause, on essaie de comprendre ce qui se passe pour mettre un petit peu à distance, et puis pour voir ensuite quelles sont les conditions de l'action qui peuvent enrayer cette espèce de vortex infernal.
Ouais, mais ça, il faudrait le faire concrètement aussi. Hein. C'est pas juste un exercice intellectuel de mettre le pied sur la pédale de frein. Hein.
Alors, c'est sûr qu'en tout cas, il y a quelque chose dans l'accélération de nos sociétés qui est profondément délétère et avec laquelle il faut impérativement appuyer sur le frein.
Pourquoi le terme d'anthropocène ? Parce que ça, c'est un grand sujet aussi hein, qui vous concerne dans vos travaux de recherche, Nathalie Wallenhorst. Pourquoi l'anthropocène a marqué une rupture vraiment décisive dans la perception du rôle qu'a l'humanité sur la planète ? Puisqu'on rappelle que l'anthropocène, c'est ça, hein, c'est vraiment comment les activités humaines ont joué depuis longtemps sur la géologie même de notre planète.
Hein. Le terme anthropocène, il arrive dans les années 2000, en l'an 2000, et vraiment dans le prolongement de cette réflexion sur les sciences du système Terre. Et alors avec ce terme d'anthropocène, ça marque une rupture, et cette rupture, elle est absolument déterminante pour penser aujourd'hui le devenir des sociétés. Mmh. Ça marque une rupture avec l'Holocène. L'Holocène, c'est l'époque géologique antérieure qui a commencé il y a 11 700 ans. Et l'Holocène était caractérisé par une exceptionnelle prévisibilité et stabilité entre les écosystèmes de la biosphère et le climat. Dans le prolongement de ça, on a maîtrisé les écosystèmes, on a dégagé des excédents agricoles, on les a dealés, on a fait du business. Et puis, à partir de là, ça a été toute la complexité fonctionnelle de nos sociétés, des civilisations, etc. Donc l'Holocène égale émergence des civilisations, sortir de l'Holocène égale, donc entrer dans l'Anthropocène égale un immense point d'interrogation, voire le risque de déflagration des sociétés.
Alors pour faire cet exercice d'anticipation, puisque vous nous projetez en 2049, Nathalie Wallenhorst, il faut convoquer évidemment les sciences, mais toutes les sciences, parce que là aussi vous dites à quel point le rôle des sciences sociales et politiques sont importantes pour comprendre ce système Terre. Hein. Alors, c'est pas que de la physique ou des sciences naturelles.
Hein. Ben non, comme système Terre égale, si on reprend l'équation, égale climat plus biosphère plus société, il y a société dans l'équation. Et dans société, de fait, il faut aussi avoir une lecture sociopolitique. Il faut pouvoir comprendre ce qui nous arrive, le système capitaliste dans lequel on est, un capitalisme rentier et spéculatif, marqué par le néolibéralisme, la maximisation des intérêts individuels, marqué par aussi cette porosité entre les plus hautes sphères de l'État et puis les entreprises du CAC 40 avec les différents transferts, on va dire, entre les chefs de cabinet des plus hautes sphères de l'État et puis la tête des CAC 40. Et tout ça, si je faisais une petite parenthèse, mais je l'aime bien, c'est un politiste qui appelle ça les classes rapaces. Alors ça rappe un peu, mais ça dit quelque chose de cette collision en fait des intérêts si problématiques.
Et on a besoin des sciences humaines pour l'étudier.
Et on a besoin pour comprendre jusqu'au bout ce qui nous arrive et les causes profondes de ce qui nous arrive, bien sûr, il faut politiser les outils conceptuels dont on dispose. Et l'anthropocène, par exemple, est un outil conceptuel vraiment puissant, mais qui doit lui aussi être politisé à l'aide du débat en sciences humaines et sociales.
Les classes rapaces, ça joue un rôle fondamental justement dans l'emballement de notre système Terre aujourd'hui ?
Alors, ce serait vraiment chouette et pratique et très simple de pouvoir nommer une cible et puis de se dire, bon allez hop, on désingue la cible. Malheureusement, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est, et ce qu'on peut déplorer aujourd'hui, c'est de voir combien les États font le choix de l'impuissance. Et ça, c'est un vrai problème.
De l'impuissance ou de l'inaction ?
En tout cas, d'une forme d'impuissance politique à ouvrir des voies, tracer une ligne, donner à voir à un moment donné ce que pourrait être, qu'est-ce que pourraient être nos sociétés si elles se donnaient pour mission, ou la mission, la responsabilité politique, si elles se donnaient pour mission de contenir l'emballement du système Terre. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas de cette façon que se sont missionnés les responsables politiques.
Nathanaël Vanhoenhorst, il y a une notion essentielle, c'est celle de tipping point, ou point de basculement, justement. Pourquoi est-ce qu'elle marque, elle aussi, une avancée scientifique majeure dans la compréhension du climat, alors ?
On pourrait se dire, on peut prendre une toute petite image pour illustrer ça. On a tous déjà fêté une fête d'anniversaire. On va prendre pendant une fête d'anniversaire, on souffle dans des ballons de baudruche. Donc au début, il faut souffler un petit peu pour élargir le plastique. Ouais. Puis après, à un moment donné, le ballon, il augmente de façon proportionnelle à l'air qu'on injecte dans le ballon. C'est comme ça que fonctionne le climat. Un peu de CO2, ça réchauffe un peu. Beaucoup de CO2, ça réchauffe beaucoup. Et maintenant, on revient dans notre petite fête d'anniversaire. Jusqu'à ce qu'un millilitre d'air en plus fasse exploser le ballon. Et alors, on revient sur la question climatique. Jusqu'à ce qu'un petit peu de CO2 en plus génère un ensemble d'effets dominos ou d'emballement, c'est-à-dire que intensifier la fonte des calottes glaciaires qui, elles, à leur tour, vont émettre du CO2, et ça va intensifier les feux de forêt des grands ensembles de forêts du Grand Nord. Le carbone patiemment stocké dans les troncs va être rebalancé dans l'atmosphère, ça va réchauffer à nouveau, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais continuer un peu plus, mais ça serait trop anxiogène. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire tous les éléments comme ça du système Terre qui fonctionnent comme des dominos qui tombent les uns après les autres. C'est-à-dire que ça devient la Terre qui est la principale source d'émettrice de gaz à effet de serre, et non plus les activités humaines.
Mais le point de basculement, c'est le moment où le ballon, justement, d'anniversaire explose quand même, non ?
Voilà, tout à fait. Alors, dans des temporalités d'anniversaire, ça dure en un quart de seconde l'explosion du ballon. À rapporter aux temporalités longues de la Terre, bien sûr, il y a différentes temporalités qui sont plus longues.
Quels sont les principaux points de basculement identifiés par les chercheurs ? Pourquoi certains d'entre eux sont particulièrement préoccupants ? On va en parler dans un instant. Pour l'illustrer, on va écouter l'extrait d'un documentaire d'Arte sur les océans, et en particulier un extrait qui concerne la MOC, la grande circulation atmosphérique et océanique qui brasse l'océan Atlantique.
Donc, notre estimation est qu'avec environ 50% de probabilité, étant donné que nous continuons à émettre des gaz à effet de serre, disons qu'il s'effondrera avant 2060. Donc, c'est une probabilité très très élevée pour un événement qui aura des conséquences dévastatrices sur la vie humaine telle que nous la connaissons.
Un effondrement prochain de la MOC ? Et après ? Plus rien ? C'est la fin ?
Oui, il est très probable que cela se produise.
La mathématicienne Suzanne Ditlevsen, traduite par Jérôme Boulet. La MOC, vous le rappelez dans votre ouvrage, Nathanaël Vanhoenhorst, c'est donc une force qui agit, un courant qui agit comme un immense ventilateur offshore, hein, et qui régule la température de l'hémisphère nord en apportant de la chaleur et l'humidité sur l'Europe. Mais le réchauffement climatique détraque tout ça, justement, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est comme un très très grand courant océanique qui redistribue de la chaleur, du sel, des nutriments entre l'Atlantique Nord et puis les tropiques. Et alors là, ce qui est en train de se passer, il y a une fonte de la calotte glaciaire au-dessus du Groenland qui introduit de l'eau douce dans les courants. Et donc l'eau douce vient diluer l'eau chaude et salée qui est plutôt au-dessus et qui arrive à ce moment-là, qui, dans un fonctionnement normal, se refroidit, devient donc dense comme elle est salée, et puis fait comme un courant marin au niveau des fonds des océans. Et en fait, le changement de la densité de l'eau vient ralentir ce courant, et donc vient ralentir comme cette espèce de grand ventilo offshore qui amène un climat plutôt tempéré et humide au niveau de l'Europe occidentale.
Et donc le point de basculement est proche ?
Alors, ce dont on se rend compte. Donc c'est un débat, c'est quelque chose qui est travaillé en ce moment par les chercheurs avec une grande intensité. Et donc la controverse scientifique, elle bat son plein en ce moment. Mais on craignait un point de bascule qui pouvait survenir au 22e siècle. Et puis de plus en plus, il y a tout un tas de papiers là, ces dernières années qui nous disent « Ah, mais attention, là c'est au niveau du 21e, le ralentissement, on commence à l'identifier et puis, un effondrement pourrait survenir. »
Il y a d'autres points de basculement, les glaces arctiques, la déstabilisation de l'Amazonie, la mort des récifs coralliens. On va en parler avec vous dans un instant et puis nous verrons quelles sont les conséquences directes, évidemment, de ces bouleversements sur la vie humaine, notre santé aussi et nos sociétés. L'instabilité signe nos territoires et puis nous attendons vos messages et vos réactions sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Nathanaël Vallenhorst, un livre qui paraît 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, c'est aux éditions du Seuil. On va évoquer avec vous les impacts systémiques sur les conditions de vie humaines dans ce monde qui se réchauffe, puisque vous décrivez dans votre livre une Europe où les vagues de chaleur deviennent la norme. Comment les chiffres déjà observés d'ailleurs annoncent déjà cette mutation vers une chaleur qu'on peut qualifier de létale?
Alors, ce qu'il faut identifier, c'est les chiffres actuels. Il y a 50 000 personnes qui décèdent tous les ans sous l'effet de vagues caniculaires estivales en Europe. Et puis, avec un pic qui a été observé en 2003 de 70 000 personnes. Et puis, depuis, il y a des politiques publiques qui ont été modifiées, etc., pour contenir, le nombre de personnes qui décèdent. Mais c'est 50 000 personnes et qui décèdent dans des conditions absolument atroces, en fait, parce qu'une mort de chaud, c'est quelque chose de terrible.
Et ça, c'est des chiffres qui paraissaient exceptionnels et qui, encore une fois, vont devenir aussi une norme.
Qui ne vont cesser de s'intensifier. C'est-à-dire, si nous restons sur la même trajectoire climatique, et donc, bien évidemment, il faut absolument se détourner de cette trajectoire climatique. Et bien sûr, c'est des chiffres qui vont s'intensifier et qui vont s'intensifier aussi sous l'effet d'un autre type de décès. Lorsque l'air est saturé en vapeur d'eau, quand il y a 99 ou 100% de taux d'humidité dans l'air, la létalité, elle c'est peut ça. Survenir dès 28 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, le corps est capte de la chaleur, il fait faire un travail de transformation de l'eau en vapeur d'eau pour que l'excédent énergétique il soit dissipé. C'est pour ça que quand il fait chaud, ça sent un peu de dessous les aisselles.
Système de transpiration. C'est cette combinaison entre chaleur et humidité qui fait qu'on arrive à des taux de létalité très importants pour les mammifères en particulier.
Tout à fait. Et même lors de vagues de chaleur qui ne sont pas si intenses en termes de température, à savoir dès 28 degrés.
Quel territoire, en Europe et ailleurs d'ailleurs, risque de devenir véritablement inhabitable d'ici la fin du siècle ?
Alors, ce qui est assez net, c'est qu'il y a une désertification, un assèchement en cours du bassin méditerranéen. Ça, c'est une chose qui est très nette. Les attaques, entre guillemets, surviennent de toutes parts. Il y a une étude vraiment extrêmement intéressante de Margot Bador qui montre que, en fait, la vague caniculaire de 2003, par exemple, en 2100, ça donnerait des pics caniculaires à Strasbourg, Metz et Nancy de 55 degrés. 55 degrés, c'est quoi ? La première fois que je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais le record du monde, il est où ? C'est 54,4 degrés dans un désert aux États-Unis. Donc déjà, on pourrait dire la France championne du monde. Mais enfin bon, entre-temps, il y en a d'autres qui ont battu le record. Et en fait, 55 degrés, c'est des températures qui ont cours dans le désert. Pourquoi dans le désert ? C'est parce que c'est des températures qui désertifient, en fait. Ouais. Donc qui transforment des espaces qui sont habitables, qui peuvent être dédiés à la production agricole, dans des espaces désertiques.
Mais ça veut dire que nos régions vont se désertifier aussi sous les effets des canicules à répétition ?
Ah, il y a une chose qui est claire et qui est nette, oui. Ça, c'est sûr. Si nous continuons sur la même trajectoire climatique, au niveau de l'Europe occidentale, on aura un très grand problème concernant la production agricole et la sécurité agricole.
Alors, il y a la question des déplacés climatiques qui, elle aussi, transforme radicalement les perspectives démographiques et politiques de la planète. Ça, vous en parlez dans l'ouvrage.
Oui, alors, c'est-à-dire que peut-être on peut prendre une image, parce que parfois, on peut avoir l'impression que les calottes glaciaires, c'est très très loin, les grandes barrières de corail aussi, les ensembles forestiers et ne pas connecter ces éléments-là avec nos vies. Et pour moi, 2049, il était là pour montrer justement les impacts et les incidences sur tous les domaines de nos vies. On pourrait imaginer un vase en porcelaine, un vase hyper précieux, genre à 20 millions d'euros, il y en a qui se vendent.
Un beau vase chinois.
Voilà, un beau vase chinois. Imaginons qu'un milliardaire nous ouvre les portes de sa demeure et nous montre son vase chinois. Un vase, il le met sur un pied, sur un petit guéridon. Et là, on prend une grosse brute qui arrive avec une batte de baseball et qui commence à fracasser le pied. Et qui dit non, mais vous inquiétez pas, équipe cool, pas de panique, moi je touche pas le vase en fait, je ne touche que le pied. Et en fait, avec cette petite image, c'est pour dire, mais en fait, nos sociétés, elles se sont encastrées dans un ensemble biogéophysique qui est la Terre, qui est le système Terre, qui est notre planète. Et en fait, si on détruit cet ensemble-là, si on force l'ensemble des points de basculement, alors c'est toute l'existence humaine qui est complètement transformée.
Mais sur la question des déplacés climatiques, pour y répondre vraiment.
Oui, donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'on identifie, c'est des personnes qui doivent migrer, traverser la mer Méditerranée, etc. Mais en fait, si la désertification du bassin méditerranéen se poursuit, et si même à Strasbourg, Metz et Nancy, de fait, on peut non seulement plus faire le petit vin liquoreux, mais qu'en plus, on ne peut pas planter de blé et de maïs, et bien en fait, il y a des migrations qui seront intra-européennes.
C'est-à-dire que nous aussi, on fera peut-être le choix de quitter le territoire.
En tout cas, l'idée est d'avoir les yeux en face des trous pour pouvoir agir à la hauteur des enjeux. Donc oui, le risque est considérable.
Les impacts sur la santé physique et psychique. Pour en parler, on va écouter la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte. C'était pour une vidéo de l'Institut Pasteur en février dernier.
Ce que l'on voit actuellement, c'est parmi les aspects déjà observés, les impacts du changement climatique qui sont généralisés et qui s'aggravent, des effets directs pour la santé, santé physique, mais aussi santé mentale, notamment avec les déplacements, ou bien des effets indirects via les conséquences de la dégradation des écosystèmes. Un exemple de ces effets indirects va être par exemple l'augmentation des conditions propices aux incendies de forêt qui conduisent à exposer une population plus large à une dégradation de la qualité de l'air du fait des incendies de forêt par exemple au Canada.
Nathanaël Vallenhorst, donc la voix de Valérie Masson-Delmotte à l'instant, vous qui qualifiez le changement climatique de plus grande menace sanitaire pour l'humanité. Rien que ça.
Moi, je dirais que c'est donc de travailler là sur un livre comme ça, ça laisse pas indemne en termes d'émotion, quoi. Hein, ça fait vivre de la tristesse, de la colère, etc.
C'est ce que vous avez ressenti en l'écrivant ?
Ah oui, tout à fait. Alors du dégoût, hein, de me dire bon sang, mais c'est pas possible, la trace qu'on laisse nous, les humains sur la Terre, c'est ça. De la peur par rapport à l'avenir. De la colère. Alors la colère, fort heureusement, elle est pas partie. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent se dépasser. Mm-hmm. La colère, elle se sédimente, elle se refroidit, elle devient une énergie de l'action. Voilà, importante. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'en tout cas, comme j'en suis à vous parler de mon petit cœur, mais j'arrête juste après, en tout cas, j'ai pas vécu de désespérance. Et ça c'est un point, en tout cas, un point que je peux dire. Et donc, de travailler sur les impacts des transformations climatiques sur la santé, ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une augmentation des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies vectorielles, toutes ces maladies qui sont transmises par des petites bêtes. Des perturbations endocriniennes, donc en fait à l'intérieur de nous, dans la façon dont on fonctionne, on ne fonctionne plus de la même façon au niveau physiologique. Des zoonoses, des maladies mentales, l'élargissement de certains périmètres de maladies, le fait même de respirer peut tuer avec la pollution aux microparticules, une augmentation de la violence sous l'effet de la chaleur, et puis le taux de suicide qui augmente aussi sous l'effet de la chaleur. Donc de fait, où qu'on porte notre regard, c'est une déflagration de la santé
humaine.
Et il y a
déjà une recrudescence aujourd'hui de ces maladies qu'on peut attribuer directement au réchauffement climatique.
Oui, tout à fait. Il y a The Lancet, la grande revue médicale, qui fait un travail absolument remarquable tous les ans, où ils identifient la déflagration en cours de la santé humaine sous l'effet des transformations climatiques.
Il y a aussi la question du chaos social et politique que vous décrivez très très bien dans cet ouvrage, donc 2049, puisque vous expliquez que ce dérèglement du climat va exploser nos sociétés. Alors, la pénurie d'eau, par exemple, s'il faut en donner un exemple particulier, celle d'eau et de nourriture, ça constitue déjà des sources de tensions majeures au sein des sociétés.
Oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être la mère de toutes les menaces, la pénurie d'eau. On n'a pas besoin de faire un dessin. J'ai un verre en face de moi. Enfin, on a besoin d'eau dans notre vie au quotidien. Un type de consommation d'eau qu'on voit peut-être moins dans notre quotidien, c'est celui qui alimente la croissance économique, qui alimente le moteur économique, qui est alimenté évidemment par les énergies fossiles. Ça, on est au courant. Mais aussi par un rapport à l'eau, qui chaque élément a une empreinte hydrique. Un hamburger, c'est 2400 litres, un gin, c'est 10 000 litres, etc. Et donc, on devait se partager une certaine quantité d'eau accessible à l'humanité, c'est-à-dire 0,007% de l'eau sur Terre. Au début du 19e, on était 1,6 milliard. Aujourd'hui, on est 8 milliards, avec de fait une intensification de la consommation et donc une pression sur les ressources en eau de plus en plus considérable. Mmh.
Pour compléter ce tableau réjouissant, le changement climatique accentue aussi les injustices sociales et de genre, et ça, c'est très bien documenté aussi par les études scientifiques. Les plus fragiles, les personnes les plus pauvres, les femmes, les enfants, les personnes âgées, sont toujours les premières victimes des catastrophes et des pénuries.
Ça, c'est sûr, c'est une immense injustice qui est tapie au cœur des questions climatiques. Les personnes, en termes d'individus, qui ont la plus forte empreinte environnementale ne sont pas les personnes les plus touchées. Les personnes qui ont l'empreinte environnementale la plus restreinte sont les personnes qui sont directement frappées de plein fouet par les questions climatiques.
Parce qu'elles sont moins en capacité de s'en défendre.
Mais quand on n'a que son corps comme outil de travail et qu'il fait chaud, en fait, on va bosser. Et la chaleur peut être létale. Ça, c'est un premier élément très basique, immédiat. Et puis, en fait, quand on habite quelque part et qu'on en bord de mer, dans une maison, une bicoque, je ne sais pas quoi, et qu'on vit en fait de la pêche immédiatement et qu'il y a une baisse drastique des populations de poissons, et qu'il y a une montée du niveau des eaux et une salinisation des eaux souterraines, où est-ce qu'on peut aller ?
Pourquoi le réchauffement climatique accrue également les risques politiques comme l'autoritarisme, mais aussi les guerres, l'effondrement des droits humains ? Tout ça, c'est lié. Tout ça est lié aussi au dérèglement climatique de la planète.
Alors, moi, je vois, par
exemple,
et
du système Terre, donc.
Ouais. Je vois quand on échange avec les étudiants en cours et qu'on parle des éléments, de la Terre, etc., pour comprendre la façon dont ça fonctionne d'un point de vue physique, biogéophysique, à tous les coups, il y en a un à un moment donné dans l'amphi qui dit monsieur, est-ce qu'on ferait pas une petite révolution, en fait, insurrection, révolution, on fait tout péter, voilà. Puis juste après, il y en a un autre qui se dit on va prendre la méthode douce, on va peut-être une dictature verte à la chinoise, voilà. Et en fait, dans les deux cas, c'est la violence qui est appelée comme moyen légitime de l'action. Évidemment, il y a une troisième voie qui peut être résolument démocratique.
C'est celle que vous préconisez à vos élèves.
En tout cas, moi, de fait, comme éducateur, c'est-à-dire comme enseignant-chercheur, qui fait partie de cette grande famille des éducateurs, mon objectif est toujours de faire front face à la violence. C'est la finalité même de l'éducation. C'est éradiquer la violence. C'est l'endroit où on échoue tout le temps, d'une certaine façon. Donc, en tout cas, un éducateur, il ne va pas appeler à la violence. Sinon, il sort de sa fonction éducative et il est dans une autre fonction.
Et vous arrivez à les convaincre ?
Alors, heureusement, je n'arrive pas à convaincre dans le sens, l'idée c'est de pouvoir se forger soi-même son jugement, de façon libre, éclairée, à partir d'éléments, et puis une problématisation qui se tisse dans le dialogue avec l'enseignant.
La question qui vient, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire face aux perspectives là que vous dessinez dans cet ouvrage ? On va en parler dans un instant, et puis vous répondrez aux questions, aux témoignages, et aux messages vocaux également sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré.
Qu'est-ce qui se passe ?
L'avion commence à trembler de plus en plus fort.
Il n'y a pas d'alerte sur le radar météo ?
Je prends une commande. Je passe en manuel.
Ils ne le savent pas encore, mais ces passagers sont victimes du réchauffement climatique. Des glaciers qui s'effondrent en Italie. Des tempêtes d'une violence inouïe en Corse. Des hivers d'une rudesse inédite aux États-Unis. Des montagnes sans neige à Noël. Ces dernières années, l'accélération du réchauffement climatique semble devenue hors de contrôle.
Extrait d'un documentaire Le Monde d'après, Nathanaël Vallenhorst, vous qui êtes l'auteur d'un livre 2049, Ce que le climat va faire à l'Europe, qui paraît aux éditions du Seuil. 2049, c'est pas une prédiction, mais c'est une image forte, vous le revendiquez, pour nous forcer justement à voir l'avenir. Pourquoi cette posture intellectuelle est indispensable selon vous dans le débat politique actuel sur ces questions-là ?
Parce que, en fait, aujourd'hui, si on prend une image, on a un cancer sur lequel on est en train de mettre un pansement. Et puis, aux dernières nouvelles, on vient juste de nous dire « Non, mais vous inquiétez pas, on a un pansement high-tech, donc ça va aller mieux. » C'est juste une image pour parler de l'inadéquation entre les politiques publiques actuelles organisées autour des questions de transition. Transition, bien sûr, tout à fait nécessaire, hein, de même que de faire des câlins aux arbres, pourquoi pas. Hein. Mais fondamentalement, ça ne contient pas l'emballement du système Terre. Bah, ça, il faut juste se le dire, en fait. Il faut juste avoir les yeux en face des trous, nommer les choses. Et puis, après, à partir de là, pour se dire, bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Comment est-ce qu'on pourrait, ensemble, collectivement, arriver à désirer l'indésirable, c'est-à-dire la limitation, le fait à un moment donné de fonder dans la loi ce qui va permettre de contenir l'emballement du système Terre et qui va venir limiter nos existences, non pas du tout pour faire advenir une dictature, mais tout simplement pour que la démocratie entre dans sa pleine mesure d'un endroit qui articule liberté et limites et qui réencastre nos démocraties au sein des limites et des limites planétaires. En plus, on a tout le cadre théorique qui est adapté pour penser ça donc, et pour le mettre en œuvre.
Donc ça veut dire que nos politiques doivent bien se mettre en tête que ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est la mécanique géophysique à l'œuvre, précisément.
Ben, alors, en France, on n'est pas aidé parce qu'on est des quiches en science. Hein. On est avant-dernier de tous les pays de l'OCDE. Donc, tout le monde est devant nous. Les Hongrois, les Polonais, honnêtement, on aime bien les regarder du dessus. Ouais. On n'arrive à battre que les Chiliens. Donc, bon, bref. Donc, à cet endroit-là, de fait, on n'est pas aidé. Dans un premier temps, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre. Voilà. C'est, évidemment, savoir n'est pas suffisant pour agir. Là, on est au courant. Mais pour l'instant, de fait, on ne sait pas suffisamment. Et on n'est pas suffisamment rentré dans les logiques non linéaires qu'on a décrites en première partie.
Alors que les politiques fonctionnent justement d'une façon très linéaire.
Ah bah, tout est organisé de façon linéaire, la poursuite de la croissance, etc. Des politiques de transition qui se déploient, j'ai envie de dire, tranquillement, ça râpe un peu à droite, à gauche, etc. Mais on n'a pas pris en compte la rupture fondamentale sur laquelle nous sommes en ce moment, qui est biogéophysique et qui appelle soit une rupture sociopolitique, quelque chose de l'ordre d'un chaos dans ce prolongement-là, soit une rupture sociopolitique qui soit suffisamment forte pour contenir l'emballement du système Terre et pérenniser la vie humaine en société.
Donc, vous plaidez pour une refonte constitutionnelle et législative. Ça, c'est indispensable aujourd'hui ?
Bah, en tout cas, sans ça, on n'y arrivera pas. Ça, c'est une évidence.
C'est un préalable à l'action ?
Un préalable, je dirais pas ça. Il faut avancer sur tous les fronts en même temps. Heureusement qu'il y a des mouvements citoyens, etc., qui opèrent indépendamment de nos institutions. Mais de fait, à un moment donné, si ça n'est pas fondé en droit, si c'est simplement j'agis de telle ou telle façon, si je le sens ou je le sens pas, ben non, là, ça ne va pas.
Les modèles économiques dominants minimisent beaucoup les risques aujourd'hui et ce sont devenus des modèles quasiment dangereux aussi pour notre avenir ?
Ça, c'est quelque chose de terrible, même chez des économistes très très bien intentionnés qui cherchent à partir des tipping points. Ils n'arrivent pas à intégrer les points de rupture et de bascule biogéophysique dans les modélisations, notamment sur le coût social du carbone, etc., pour parler comme les économistes. La question fondamentale, en fait, elle est assez simple, qui nous revient à nous comme citoyens, c'est on arrête qui ? On arrête quoi ? On arrête quand ? Si on veut que la vie humaine en société demeure possible.
Et vous insistez sur l'importance d'une information sans catastrophisme, mais sans déni. Hein.
Bah oui,
ça, c'est un positionnement qui est crucial.
Bien sûr,
aussi.
Ça c'est important. C'est à un moment donné, on regarde avec les yeux en face des trous ce qui est en train d'advenir. Et j'ai envie de dire, sans crainte, on peut regarder ça sans crainte, ça nous met ni plus ni moins dans le réel. Comme ça nous met dans le réel, l'endroit de l'action, c'est le réel. Sinon, on est dans des fantasmes, en fait. On fume la moquette et puis on se fait plaisir dans nos têtes. Là, on est dans le réel et c'est l'endroit où une action politique à la hauteur des enjeux est possible. Sinon, ça n'est pas possible. Donc, il faut de fait, tout doit procéder du réel.
Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui disent bah, « Super, la semaine commence toujours très bien avec la Terre au carré », quand même, dans votre ouvrage, vous terminez que la sortie de route n'est pas écrite d'avance. Hein. Y a l'éducation, il y a la démocratie, la refonte radicale de nos institutions peuvent encore nous faire bifurquer de façon...
Écoutez, moi j'adore le handball. Voilà. Et imaginons, on est sur un terrain de hand. On est mené au score. Donc on est mené au score, on ne va pas se mentir, d'au moins 4-5 buts. Hein, voilà. Il reste 5 minutes. Bah, ce n'est pas le moment d'aller prendre sa douche. C'est le moment où on se défonce et on va jusqu'au bout. Mmh. Et puis, à un moment donné, c'est jamais arrivé qu'un type, 5 minutes avant la fin du match, aille prendre sa douche parce qu'il ne le sentait plus, parce qu'il était déprimé, parce que... voilà, c'est tout. On est dans le temps de l'action en ce moment.
Allez, on part sur le terrain des questions tout de suite. Allez, on a une première question par note vocale de Gilles au sujet du CO2. Et c'est pour vous, Nathanaël Wallenhorst.
Bonjour, la Terre au carré. Comment le climat réagirait-il si la concentration de CO2 dans l'atmosphère passer de 427 ppm à 300 ppm avant 2050. Merci.
Ce serait bien, ça. C'est un scénario optimiste.
Alors, là, du coup, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, de fait, en ce moment, il y a quand même une grande entreprise pour un peu nous bourrer le mou et puis nous dire, mais en fait, bon, bah voilà, c'est mort, machin. Surtout, restez sagement où vous êtes, ne vous soulevez pas, etc. On a mis des ingénieurs sur le coup, donc, de fait, me voilà rassuré, avec des gigapompes à carbone, et puis on va te capter ça. Super, mais toujours est-il qu'en ce moment
les calottes cimetières de CO2. Hein.
Voilà, les calottes glaciaires sont en train de fondre, les sols continuent de s'assécher, les populations de poissons et puis d'espèces animales, etc., sont en train de s'effondrer. Enfin bref, je pourrais faire la liste comme ça.
Ce que
je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de systémique. Voilà, donc qu'est-ce qui se passerait tout d'un coup? Je suis pas futurologue, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas, il y a plein d'indicateurs sur lesquels en fait il se passe. Serait pas grand chose immédiatement.
C'est ça.
Et tranquillement, petit à petit, il y a une inertie qui entrerait en jeu.
Parce que ça prend beaucoup de temps. Même si on arrêtait aujourd'hui d'émettre autant de carbone, il faudrait beaucoup de temps pour que la machine.
Le GIEC, à un moment donné, avait écrit dans un de ses rapports, il me semble que c'était dans le cinquième ou le quatrième, qu'il y avait une inertie assez longue. Et puis après, ils étaient revenus dessus en disant mais en fait, si on agit de façon radicale et qu'on se tient fermement à ses actions, l'effet peut être plus rapide que ce qu'on imaginait.
Mais là, c'est pareil. C'est plusieurs effets, donc il faudrait voir lesquels, parce qu'évidemment, tout est tellement complexe. Corinne nous envoie ce message. Est-ce que la notion d'anthropocène, demande-t-elle, est vraiment admise par toute la communauté scientifique, dans la mesure où nous serions encore dans cette époque, une époque se définissant plutôt après coup ?
Alors, par toute la communauté scientifique, non. Et le principe même, et c'est ce qui est vraiment fabuleux avec la production du savoir scientifique, c'est le dialogue, c'est la controverse, c'est le débat, etc. La communauté des géologues, qui sont très institutionnalisés, il y a un groupe de travail, l'Anthropocène Working Group, je fais partie de ce groupe-là, qui propose des datations possibles pour l'entrée dans l'Anthropocène. Il y a une datation qui a été proposée, 1950, mais qui n'a pas été retenue pour l'instant par la Commission internationale de stratigraphie.
Ça castagne pas mal entre géologues sur ces questions. C'est
ça
chaud.
Ça castagne fort. Ouais, ça c'est sûr.
Isabelle demande comment est-ce que c'est possible qu'on parle encore de ces sujets alors que tout a été dit et écrit il y a plus de 40 ans par des scientifiques et même des romans. On peut même remonter au-delà de 40 ans.
Mais ça, j'ai pas la réponse. Mais une chose est sûre, parce que l'action tarde à advenir, il faut qu'on continue d'en parler.
Xavier nous dit, devant la menace existentielle mondiale que représente le changement climatique, ne peut-on pas penser qu'il vaudrait mieux supprimer nos dépenses militaires au prix éventuellement d'être sous domination étrangère et consacrer toutes nos ressources à la décarbonation accélérée?
Alors, on est toujours dans des équilibres, en tout cas, face à des menaces de déstabilisation géopolitique, de fait, il s'agit aussi d'être prêt à cet endroit-là. C'est extrêmement triste, c'est clair et net, qu'on en soit rendu à ces arbitrages-là.
Nathanaël Wallenhorst, merci beaucoup d'être passé par le micro de la Terre au Carré. 2049, je renvoie sur votre ouvrage, il vient de paraître aux éditions du Seuil, ce que le climat va faire à l'Europe. Merci à vous.
Merci.